Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous croyez écouter l'équipée sauvage sur Europe 1 et vous croyez que, porté par une musique électronique tendance, nous allons aller de rire en découverte dans un grand tournoi qui opposerait les meilleurs journalistes de la station. Eh bien, détrompez-vous, tout ça n'adviendra que beaucoup plus tard. Pour l'instant, nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ. Entre 16h et 18h, toute la bande FM est occupée par RTL. Toutes ?
Mais
non ! Car une petite station, peuplée d'irréductibles gaulois plus un Suisse, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Notre secret ? Une potion magique qui nous donne une force surhumaine. Seule notre druide, Eva Rock, en connaît la formule.
Drogue, alcool, sexe...
Non, non, Eva ! La formule ne se transmet que de druide en druide. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé, Eva, et sur les écrans ce soir, si vous voulez bien. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur aujourd'hui. Avec tous les indices que je viens de semer comme autant de cailloux du petit poussé, Eva, je me doute que vous avez deviné qui nous recevons.
Je me demande si c'est pas Jean-Jacques Goldman.
Ah, Anne Goscinny, notre invitée cet après-midi. Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes romancière, vous avez dernièrement publié le 4e tome déjà du Monde de Lucrèce, que vous co-signez avec la dessinatrice Catel. Vous êtes évidemment la fille de René Goscinny. Un chiffre stratosphérique pour donner une idée de ce que représente Astérix, 500 millions d'albums vendus dans le monde. Donc votre père, René Goscinny, est un des auteurs français les plus lus au monde de tous les temps, tout simplement. Alors, on le sait, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Astérix était déjà un phénomène à l'époque, mais est-ce qu'il aurait pu imaginer que le phénomène continue comme ça de génération en génération ?
Je crois que c'est... il n'aurait pas pu imaginer quelque chose d'inimaginable.
Ouais,
en revanche, heureusement, il a connu de son vivant un grand succès. Mais ce qu'on sait peu, et ce qu'il est bien de rappeler pour les jeunes créateurs qui rament, c'est que le succès est venu assez tard, puisqu'Astérix s'est créé en 59. Mon père est né en 26. Et donc, il a pu savourer ce succès puisqu'il meurt en 77. Mais quand même, il a beaucoup, beaucoup ramé. Il a vraiment crevé la faim. Il est allé d'Argentine à New York, où à New York, vraiment, c'est compliqué d'être très pauvre. Et puis ensuite, il est revenu en France grâce au service militaire. Et puis, il est reparti à New York. Enfin, ça a été vraiment une vie de galère jusqu'à la création avec Albert Uderzo d'Astérix.
Une vie de galère, mais une vie extrêmement romanesque. On va en reparler tout à l'heure. Ce qui est fou, c'est qu'on retrouve la malice de votre père. Il doit y avoir une part de génétique dans Le Monde de Lucrèce que vous publiez chez Gallimard Jeunesse. On va en parler aussi. Le temps, Anne Goscinny, de vous présenter les forces en présence. Ils sont un peu comme les pirates dans Astérix. Ils sont présents à chaque épisode, mais ils en sortent souvent ridicules. À ma gauche, grand fan du Monde de Lucrèce et de vos romans, Anne Goscinny, voici un authentique admirateur qui vous trouve d'autant plus de mérite qu'à votre place, son plan aurait été assez simple.
Profiter de l'héritage, tranquille.
Et oui, bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jean-Philippe, vous végétez actuellement dans le ventre mou du championnat, situation indigne d'un champion de votre étoffe.
Je me Mylène Farmerise, c'est-à-dire que je me fais plus rare à l'antenne comme ça.
Sauf qu'elle apprend beaucoup à chaque fois quand même.
C'est ça la différence entre vous et Mylène quand même.
C'est un choix stratégique.
Oui, alors justement, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour reconquérir le vote de l'invité et des auditeurs?
Alors vous le savez sans doute, ce sont les 75 ans de la libération de Auschwitz, et je vous parlais d'un luthier de Tel Aviv qui s'est donné une belle mission, c'est-à-dire qu'il restaure les violons qui ont appartenu à des juifs pendant la guerre, des violons qui ont joué parfois dans des camps. Ils reviennent à la ville, jouent maintenant sur les scènes du monde entier. Ça s'appelle les violons de l'espoir. Voilà.
Encore une belle histoire signée Jean-Philippe Ballas. À ses côtés, Anne Goscinny, il donne raison au slogan surréaliste de Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Après une période de disette assez terrible, un véritable tunnel de la loose où ne filtrait aucune lumière, Emmanuel Dutheil, chef du service éco, a enfin renoué mardi avec la win.
Ouais ! Je romps la spirale de l'échec.
Fait plus étonnant, ce n'est pas avec un sujet structuré sur l'analyse de l'impact de la réforme des retraites sur le pouvoir d'achat des seniors qu'il a renoué avec ce succès, mais avec une chronique mal ficelée sur la grande duchesse du Luxembourg qui n'était pas gentille. Chronique qui tenait d'ailleurs plus du sketch. Donc aujourd'hui, rebelote, j'imagine que vous ne nous parlez pas d'échanges flottants.
Non, mais vous m'avez demandé vous-même de venir pour que je vous parle du Bhoutan, parce que dans ma chronique, justement,
oublié, oui,
sur Maria Theresa du Luxembourg, j'ai à un moment fait une digression sur la famille royale du Bhoutan et vous avez été intéressé. Qu'on connaît peu ou pas du tout, et donc je vais vous emmener au Bhoutan découvrir les Kate et William de l'Himalaya, puisque c'est comme ça qu'on les surnomme.
Eh bien, ça promet, le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Anne Goscinny qui nous accompagne cet après-midi. On est très heureux de la recevoir pour parler à la fois de son dernier livre, le tome 4 du Monde de Lucrèce, et aussi de la bande dessinée en général, puisque c'est l'année de la bande dessinée. Il y a le festival d'Angoulême. Et jeudi dernier, une statue à l'effigie de votre père René Goscinny a été inaugurée dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez devant cette sculpture de 3 mètres installée dans le quartier de votre enfance, puisque si j'ai bien compris, elle a été installée en face de là où il travaillait en fait ?
Cette statue est effectivement installée devant l'immeuble dans lequel on habitait avec mes parents. Et si on imagine que mon père se penche par la fenêtre et regarde, il se voit, ce qui est assez dingue et assez émouvant. Ouais. Mais je peux pas dire que je la contourne, je peux pas dire que je fais des détours pour pas la croiser, cette statue. Ouais. Enfin, il faut quand même être bien dans ses pompes et avoir le moral pour aller voir une statue comme ça qui représente son propre père, le premier homme de ma vie. Donc c'est pas toujours simple.
Il vous arrivait d'aller voir quand il écrivait, quand il concevait Astérix et tous les autres
personnages. Ah non, mais vous n'avez pas compris, je crois. C'est le truc, mon père avait un bureau qui était derrière le salon avec des persiennes en bois. Et il fermait les persiennes.
Ah,
et quand les persiennes étaient fermées,
ça voulait dire...
mais je pense que l'appartement aurait brûlé. Moi, je n'allais pas lui dire, hein, personnellement. Un jour, en rentrant de l'école, donc j'avais moins de 9 ans, je suis allée dans son bureau avec mon pain au chocolat. Et il ne m'a pas dit bonjour, il m'a dit... Ce n'est pas l'annexe de la salle à manger, ici. Je devais avoir 6-7 ans. Je n'ai pas compris annexe. J'ai pas compris qu'il y avait mon prénom dans annexe. Je me suis dit, ça sent pas bon.
Je repars
dans la salle à manger. Ou éventuellement à la cuisine.
Et aujourd'hui, vous avez repris le flambeau, si j'ose dire, puisque vous publiez Le Monde de Lucrèce, ce personnage que vous avez créé. Vous vous imaginez pas un autre destin que celui-ci?
Ah si, si, parce que d'abord, avant d'écrire cette série que j'ai créée avec Catel, qui a beaucoup, beaucoup de talent, j'ai écrit 7-8 romans chez Grasset, des romans un peu d'introspection, pas très gais, qui surfent entre la psychanalyse et la névrose ou la psychose. Et puis un jour, Catel m'a dit « Mais enfin, t'es beaucoup plus drôle que les romans que tu publies, qui sont quand même hyper sinistres. Pourquoi tu te lancerais pas ?» Et j'ai dit... J'ai pas dit banco tout de suite, mais je l'ai dit assez vite.
Et vous avez eu raison.
Et là, on publie le 5e volume en mai.
C'est une réussite. Le Monde de Lucrèce, tome 4, est disponible avant le prochain en mai. Anne Gossigny, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, chers auditeurs, donnez-moi la main. Et donnez-moi aussi votre carte bleue parce que le vol n'est pas donné. Je vous entraîne au Bhoutan. Royaume quasiment aussi perché que celui qui va vous le faire découvrir. Le Dalai du Thaï s'échauffe. En plus d'être le chef du service économie, il est, vous le savez, notre expert tête couronnée. Une passion à laquelle reste hélas parfaitement hermétique nombre de ses collègues comme Mathieu Charrier, notre journaliste ciné.
Oui, je pense que vous faites tous comme moi le matin pour regarder l'actualité de la famille Grand-Ducale sur leur compte officiel.
Ouais.
Et là, scandale à la cour Grand-Ducale parce que, semble-t-il, eh bien, il se racontait que la Grande-Duchesse était méchante.
Non mais il est en train de nous faire 3 minutes sur la Grande-Duchesse qui n'est pas gentille, quoi.
Quelle attaque indigne, alors que c'était passionnant. Tout de suite avec Emmanuel.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Détente rieuse pour vous, compétition fiévreuse pour eux, vous écoutez l'équipe est sauvage. Anne Gossigny qui publie le 4e tome du Monde de Lucrèce est l'invité arbitre de notre grand concours quotidien opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre savoir. Et parmi ces valeureux journalistes, un champion hors norme, capable, lorsque le journalisme ne paye plus, de se reconvertir humoriste. Et de faire carton plein. Mardi, Emmanuel Dutheil a vite compris que tout le monde se foutait allègrement de son sujet sur la duchesse du Luxembourg qui n'était pas très gentille.
Voilà,
grande duchesse, on s'en fout toujours autant. Il aurait pu s'effondrer, non. Il a retourné la situation à son avantage en transformant sa chronique en sketch. Je dis chapeau l'artiste.
Selon la presse luxembourgeoise, on pourrait arriver jusqu'à l'abdication du grand duc.
Non, mais non.
Si. Oui, ça la fout mal quand même quand le premier ministre vient comme ça enquêter. Mais je sens que vous vous moquez complètement.
Mais non, non, il faut tenir jusqu'au bout, Emmanuel.
On veut connaître la fin.
Jusqu'au bout. Hein.
Bah, la fin, je peux pas vous la raconter.
Et il pouvait même pas nous raconter la fin. Anne Gossigny, l'heure est venue d'écouter le nouveau phénomène du stand-up. Emmanuel Dutheil, après le Luxembourg, aujourd'hui direction le Bhoutan. Carrément. Ouais,
j'espère que je vais pas vous déclencher le même fou rire que je vais réussir à aller au bout de ma chronique, parce que je vous préviens d'avance, il n'y a pas plus de fin que dans l'autre. Hein. Là, je réponds vraiment à une demande générale de la rédaction de vouloir aller au Bhoutan. C'est pour ça que je vous y emmène. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Bhoutan et pourquoi je vous parle de ça? Déjà, vous savez où c'est le Bhoutan? C'est
dans l'Himalaya.
Voilà, c'est un petit royaume himalayen qui est aux confins de l'Himalaya, juste à côté de la Chine et de l'Inde. C'est un tout petit pays, il y a 800 000 habitants. Et si je vous emmène là-bas, c'est qu'il y a là-bas donc le Kate et William de l'Himalaya. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que le couple royal est beau est jeune. Le roi va avoir 40 ans là d'ici quelques jours, puisque son anniversaire. Si vous voulez lui souhaiter, lui envoyer une carte, faut le faire maintenant parce que ça va mettre du temps pour arriver au bout de temps.
J'y songeais justement.
Voilà, c'est fin février son anniversaire. Il a succédé à son père qui a abdiqué et qui vit toujours. Il est marié à une roturière de 10 ans, sa cadette. Hein, c'est pour ça qu'on les compare aussi à Kate et William. Ils sont parents d'un petit
bonhomme. Non, je vous arrête tout de suite, Emmanuel Dutheil. Vous êtes censé, j'ai votre texte sous les yeux, nous dire le nom du roi, s'il vous plaît. Donc vous allez nous dire
je vais sauter
comment il s'appelle.
Alors, il s'appelle Jingme Khesar Nagel Wangchuk. C'est donc le roi du Bhoutan.
Vous en êtes
Bhoutan.
Pas trop mal sorti.
Bah non, bah plutôt pas, je m'étais entraîné. Hein. Alors attendez, parce que une fois de plus, vous êtes en train de me perdre complètement dans ma chronique. Donc, les Kate et William de l'Himalaya, nos trois vont bientôt avoir 40 ans. Il est beau, il est marié à une très jeune et une très jolie reine. Ils ont un petit bonhomme qui est formidable, qui va avoir 4 ans d'ici quelques jours. Parce que là, c'est vraiment tout début février.
Quoi, il est formidable, on dirait que vous le faites sauter sur vos genoux le week-end.
Ah bah vous verrez comme il est beau, parce que là encore, vous vous moquez de moi, mais il y a un compte Instagram de la famille du Bhoutan. Donc vous avez le compte du roi, le compte de la reine. Si vous êtes plutôt non-royaliste, vous avez aussi le compte du Premier ministre, qui est pas mal à aller voir. Et il y a beaucoup de photos de leur petit bonhomme qui est vraiment magnifique. Et ils vont avoir, et ça a été l'événement il y a de cela maintenant quelques jours au royaume du Bhoutan, ils vont avoir un deuxième enfant, puisqu'on attendait que ça arrive. Par ailleurs, si vous voulez aller au Bhoutan, qui est un pays magnifique, vous ne pourrez pas rater le couple royal, au moins à votre arrivée à l'aéroport. Alors c'est un tout petit aéroport, il y a très très peu de liaisons aériennes pour aller au Bhoutan. Mais vous avez le portrait du roi et de la reine dès que vous arrivez dans ce petit aéroport de la capitale du Bhoutan.
Si vous dites, Emmanuel, que ce sont un peu les Kate et William de l'Himalaya, c'est qu'ils sont très modernes, c'est pour ça ?
Alors, oui et non, parce que le Bhoutan, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, le savent, c'est un pays extrêmement traditionnel et c'est quasiment inscrit dans les gènes du pays que ça reste très traditionnel. La télé est arrivée très très tard au Bhoutan, Internet est arrivé très très tard, mais volontairement, parce qu'ils veulent vraiment rester ancrés dans leur tradition. Et peut-être que l'élément qui le montre le plus, c'est que une grande partie de la population, et notamment la famille royale, est toujours habillée en tenue bhoutanaise. Pour les hommes, ça s'appelle le go. C'est un vêtement qui oscille entre le kimono et le kilt. Alors, petite anecdote, le roi du Bhoutan est le seul à pouvoir porter la couleur jaune, parce que c'est la couleur royale. Donc, c'est le seul qui peut avoir des langes jaunes qui se rajoutent.
Si on se pointe, par exemple, avec un kimono jaune, comme j'en ai beaucoup dans ma garde-robe, à l'aéroport du Bhoutan, on est débouté.
Alors, ça, je ne sais pas, parce que si vous êtes un étranger, c'était nul. Mais je croyais que vous alliez me faire un truc comme Bhoutan train et tout ça aussi. Mais bon.
Non, ça, j'ai pas osé.
Vous n'avez pas osé, mais vous avez raison, parce que je crois qu'il n'y a pas de train en plus au Bhoutan. Et pour les femmes, ça s'appelle la kira, cette tenue. Là encore, c'est magnifique. Hein. C'est une jupe longue qui tombe jusqu'aux chevilles. Généralement, c'est en soie, c'est très coloré, c'est très joli. Alors, ça, c'est pour le côté très traditionnel. Donc, c'est en cela où vraiment, ils incarnent un pays très traditionnel. Mais pourtant, comme je vous disais, c'est un pays très moderne, notamment dans sa communication. Alors, je vous ai dit, il y a 800 000 habitants, mais la reine, par exemple, a 150 000 habitants sur son compte Instagram.
150 000 habitants sur un compte Instagram.
150 000 abonnés.
C'est beaucoup.
150 000 abonnés.
C'est petit à téléphone. Alors imaginez, voilà. Tous ces 150 000 personnes qui tiennent dans un tout petit...
150 000 abonnés, dont moi, donc sur le compte de la reine du Bhoutan. Les photos sont magnifiques. Et ils ont tous les deux étudié à l'étranger. Sont allés, je crois, à Oxford, notamment en Grande-Bretagne.
Et c'est juste une monarchie de représentation, comme en Grande-Bretagne.
Pas du tout. Le roi commande véritablement. Alors, on est passé à une monarchie constitutionnelle depuis quelques années. Avant, c'était vraiment le roi qui dirigeait tout, mais ça s'est ouvert. Et le roi, par ailleurs, le roi actuel, a rompu avec une tradition qui commençait à s'estomper dans la société, mais qui malgré tout existait. Lui a dit, dès le démarrage, je n'aurai qu'une seule femme, puisque son père, là encore c'était quand même assez rare, s'était marié avec 4 sœurs. Il y avait eu une cérémonie unique où il avait sacré les 4 reines. Donc ça, c'était assez étonnant, très original. Et par ailleurs, vous le savez sûrement, et même si c'est malheureusement de moins en moins vrai, mais le Bhoutan s'était fait connaître parce que lui ne voulait pas reconnaître ce qu'on appelle le PNB, le produit national brut, hein, tout ce qu'on crée sur une année dans un pays, mais avait voulu créer le BNB, le bonheur national brut. Ça avait bien marché d'un point de vue com'. Après, dans la réalité, c'est quand même pas le pays le plus riche au monde. Ils ont beau être relativement heureux à avoir les Kate et William de l'Himalaya, ça suffit pas toujours à manger à la fin de la journée quand même. Mais voilà, pourquoi je voulais vous parler du Bhoutan.
Une bien belle conclusion. Merci Emmanuel Dutheil pour cette chronique des paysans. Anne Goscinny, sentez-vous libre de voter pour lui ou pas, comme il le dit lui-même.
Vous seriez pas la première à avoir envie, mais à ne pas le faire.
Ça, c'est sûr. Europe 1. À suivre, lorsqu'il a annoncé son sujet tout à l'heure sur ce luthier israélien qui réhabilite les violons des déportés de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Philippe Ballas a cru lire une étincelle d'intérêt encourageante dans l'œil de notre invité Anne Goscinny. Je dis attention Jean-Philippe. Hier, Axel de Tarlé aussi avait cru lire une étincelle d'intérêt encourageante dans l'œil d'Alessandra Sublet. Il a vite déchanté.
Je suis ravi de voir que mon sujet vous a intéressé, Alessandra. Je me dis peut-être qu'aujourd'hui je vais gagner.
Je fais très bien semblant.
Anne Goscinny sera-t-elle aussi bonne actrice qu'Alessandra Sublet ? La réponse juste après Néné Chéri, Woman sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Moi qui ai lu 15 fois le fils d'Astérix, si on m'avait dit un jour que je serais la fille de René Goscinny, Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1. On évoque votre père, évidemment, d'autant qu'Astérix vient de fêter ses 60 ans. Mais on parle aussi de vous, Anne, romancière, et depuis quelque temps, romancière jeunesse. Avec l'illustratrice Catel, vous vous adressez aux enfants. Or, s'adresser aux enfants, c'est tout un art. Alessandra Sublet, notre invitée d'hier, nous l'a démontré en tentant de nous présenter son émission de striptease comme un programme tout public.
Et les garçons, ils sont nu-nus. Non, nous, on a que le haut nu-nu. On n'a pas le bas nu-nu.
Oui, tout le monde, il est nu-nu et c'est très mignon-nion. Enfin, c'est quand même du cul. Vous, Anne Goscinny, vous publiez donc avec Catel le tome 4 du monde de Lucrèce. Qui est Lucrèce pour ceux qui n'auraient pas, comme moi, lu ça à leur enfant?
Lucrèce est une préadolescente, comme on dit maintenant. Mmh. Elle est en sixième, elle a 11-12 ans. Elle a envie d'aller voir du côté des adolescents. Vous savez, un peu comme on va marcher dans une mer trop froide et vite se rapatrier sur le sable chaud de l'enfance parce qu'on se dit non, les adultes, c'est quand même, je suis quand même un peu jeune. Et puis, elle a des copines. Et puis, elle vient d'une famille recomposée puisque ses parents ont divorcé. Elle est élevée par sa mère et son beau-père. Elle a un demi-frère et tout se passe bien. Elle a une tortue que j'ai appelée Madonna. Bah oui. Oui, alors ce qui est drôle, et c'est là que je vois que je suis vieille.
Oui, c'est que les jeunes ne voient plus Madonna.
Et Madonna, elle est pour les adolescents.
Il fallait l'appeler Lady Gaga.
Oui, non, mais c'est ça.
Les adolescents d'aujourd'hui.
Ou Angèle.
Pas, ah oui, Angèle, oui, c'est vrai.
Mes enfants m'ont dit, mais pourquoi pas Angèle? Je dis, mais qui est Angèle? Et alors là, en général, on reprend encore un petit coup de vieux. Mais effectivement, elle s'appelle Madonna.
Jean-Philippe Ballas.
Oui, moi, mes filles sont de grandes lectrices de Lucrèce. Ouais. Et c'est une des premières questions qu'elles m'ont posées. Elles m'ont dit,
c'est qui Madonna?
Tu s'appelles Madonna, on ne sait pas pourquoi.
Oh, oui. Voilà. C'est dingue.
C'est ça, c'est
j'ai
terrible.
Dû expliquer.
Mais elle connaissait Madonna quand même.
Mais non.
Non, Emmanuel, bah, remettez-vous.
Enfin, grâce à la tortue que j'ai créée avec Catel, maintenant elle connaît
Madonna. Peut le dire. Vous avez relancé la carrière de Madonna. Elle vous doit une fière chandelle.
Et il y a un autre personnage qui est la grand-mère maternelle, ah oui, Scarlett.
C'est ma préférée, celle-là.
Moi aussi, je l'aime beaucoup, notamment parce,
oui, parce qu'elle picole. Oui, elle est comme
parce
vous.
Parce qu'elle picole.
Ouais, ouais, elle est complètement transgressive. Elle porte de la vraie fourrure. Elle picole. Un jour, c'était pour le volume 3, je suis convoquée chez Gallimard. Et ils me disent, écoute, Anne, c'est un peu délicat, mais en 10 histoires, on a dénombré 11 alcools différents. On te rappelle quand même que tu t'adresses à des enfants de 9 à 13 ans. Est-ce que la mère, quand elle rentre du boulot pour se détendre, elle ne pourrait pas plutôt prendre un Perrier menthe plutôt qu'un verre de blanc? Bah, j'ai dit, bah non les gars, moi, quand je suis tendue, j'ai plutôt un verre de blanc qui me détend plutôt qu'un Perrier menthe.
Est-ce que Lucrèce, c'est le petit Nicolas transgressif?
Non, Lucrèce, ce serait plutôt une petite sœur du petit Nicolas, ouais, du 21e siècle.
Moderne, quoi.
Parce qu'elle n'est pas si transgressive. Lucrèce, elle aime bien les normes. Et en fait, Lucrèce, elle est souvent plus mûre que les adultes qui l'entourent. Alors, il y a cette grand-mère qui, à part l'alcool, a une autre passion qui est la vraie fourrure, parce qu'elle dit que pour elle, les animaux les plus mignons sont des animaux morts. c'est elle qui parle. Moi, j'adore les animaux. Et en fait, ça fait vraiment marrer les gamins. Quand je parle avec des jeunes lecteurs, ils me disent tous, le personnage préféré, c'est Scarlett, qui s'appelle Arlette, mais qui préfère se faire appeler Scarlett. Pareil, ça ne dira rien à nos jeunes lecteurs. Scarlett, oui, et Red, ça ne leur dit plus rien.
Non, mais ça marche quand même. Le monde de Lucrèce, tome 4. Et bientôt, le tome 5 en mai, c'est ça?
En mai, c'est ça.
Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Le virtuose Yodi Menuhin disait « Le violon est plus qu'un instrument, c'est une machine à contrôler le temps ». C'est vrai. Écoutez un concerto de Beethoven joué par Menuhin et le temps vous paraîtra très court. Écoutez le même concerto joué par votre petit-neveu Dylan. Et le temps vous paraîtra très,
très long.
Mais alors vraiment, très 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 long. Promis, Jean-Philippe Ballas ne jouera pas de violon, mais il nous contera la fabuleuse histoire de ces violons de déportés juifs auxquels un luthier de Tel Aviv donne une seconde vie. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'une compétition parfois féroce entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre pour la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Une guerre des égos a rapidement éclaté. Hier, je recevais ainsi cette réclamation de Jean-Philippe Ballas, je cite « Pourquoi est-ce toujours Anissa Mbida qui a droit à la musique qui fait... Moi aussi, je suis un sacré beau gosse qui fait chavirer le cœur des invités de sexe féminin. Moi aussi, j'ai droit à être présenté sur la musique qui fait... Eh bien, Jean-Philippe Ballas, vous avez raison. Ce n'est pas pour rien qu'une gazette locale vous a récemment élu homme le plus sexy de Malakoff 2019. Voici donc, mesdames et mesdames, Jean-Philippe Ballas. Le Casanova Malakoffiote. Car oui, j'ai vérifié, on parle bien... Non. De Malakoffiote. Jean-Philippe, comme à votre habitude, c'est vrai.
Malakoffio, Malakoffiote.
Exactement, oui, vous êtes Malakoffio plus que Malakoffiote.
Pardon.
Quoique, c'est une vraie Mathieu. Belle histoire que vous nous racontez aujourd'hui, comme à votre habitude, Jean-Philippe.
Alors d'abord, on va se mettre dans l'ambiance, on va écouter ce violon parce qu'il a une histoire à vous raconter. Alors ce violon, là, en ce moment, il sort d'un atelier de Tel Aviv. Pas n'importe lequel, c'est l'atelier d'Amnon Weinstein, il a plus de 80 ans, c'est un luthier, et il ramène à la vie des violons qui ont appartenu à des juifs pendant la guerre. Je vous explique, la toute première fois, c'est un jeune homme qui est passé à l'atelier, il avait avec lui l'instrument de son père, un instrument en très mauvais état, et c'est un violon qui avait joué à Auschwitz, vous avez de ces violons qui accompagnaient les déportés vers les chambres à gaz. D'ailleurs, il y avait de la poudre noire à l'intérieur de la cendre qui était incrustée dans le violon. Alors après la guerre, plus personne n'a voulu toucher cet instrument. Mais aujourd'hui, donc, le jeune homme est là parce qu'il voudrait que son propre fils apprenne à jouer avec ce violon, et ce en mémoire de toutes les victimes. Et c'est ainsi que, depuis plus de 20 ans maintenant, Amnon Weinstein s'est mis en tête de récupérer plein de pièces, plein d'instruments venus d'un peu partout dans le monde. Des violons qui ont joué dans des camps, donc, mais aussi dans des ghettos. Des violons qui ont été cachés parfois dans la terre pour échapper aux nazis. Et patiemment, depuis plus de 20 ans maintenant, patiemment, il les nettoie, il les répare avec ses outils, avec ses petites lunettes. C'est toujours très émouvant à voir, il y a des reportages sur Internet. Et il confie ensuite ses instruments à des concertistes, à des virtuoses qui jouent régulièrement ainsi sur les scènes du monde entier. Alors ça s'appelle... Les violons de l'espoir. Alors évidemment, les violonistes qui ont eu le privilège d'avoir ces instruments entre les mains, bah, ces violonistes disent tous que c'est une émotion très très intense, un peu comme si les vrais propriétaires étaient là avec eux sur scène. Et je me dis que c'est ça aussi finalement le devoir de transmission, de mémoire. Ça passe aussi aujourd'hui par la musique. Et d'ailleurs, c'est le fils d'Amnon Weinstein maintenant qui est en train de prendre le relais de ce vieux luthier au fur et à mesure pour perpétuer l'histoire de ces instruments.
Bon, alors pas de son à la con à l'issue de cette chronique, parce que c'était quand même très beau. Anne Goscinny, votre père évoquait très peu, je crois, ses origines juives. Il parlait pas beaucoup de la Shoah. Pourtant, une partie de sa famille a disparu dans les camps nazis. C'est une histoire familiale dont vous aviez conscience enfant, ou ce n'est que plus tard que vous avez eu connaissance de tout ça ?
Oh non, je peux peut-être dire que j'en avais une inconscience enfant, puisque j'ai vécu beaucoup avec la mère de mon père, qui, elle, avait échappé au pogrom en 1905 en Ukraine, et qui avait fui avec sa famille en France, parce qu'en France... heureux comme Dieu en France, le pays où quand même 50% de la population est favorable au capitaine Dreyfus. Donc il ne pouvait rien arriver aux Juifs en France. Et heureusement, le père de mon père a eu un poste d'ingénieur chimiste à Buenos Aires en 1928. Donc c'est mon père, son frère et leurs parents ont eu la vie sauve. Mais non, il n'en parlait pas. Mais alors, je vais vous faire une drôle de réponse, en écho sans doute à la chronique de Jean-Philippe. Mais la mère de mon père, elle l'a chanté cette histoire en me chantant des comptines en yiddish avant de m'endormir. Heureusement que je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait parce que je ne suis pas sûre que c'était très gai et favorable à un sommeil serein d'un enfant de 5 ans. Et puis, de temps en temps, elle me racontait des belles histoires du style « Mais tu sais, mon trésor, elle avait cet accent yiddish à la Popek. » Enfin, Popek, c'est un amateur à côté de ma grand-mère. elle disait « Tu sais, eh bien, les hommes du tsar entraient à cheval dans nos maisons et comme j'étais la fille du rabbin, ils commençaient par brûler ma maison. Bonne nuit, mon trésor. » Voilà. Et donc, c'est pour ça que je parle plutôt d'inconscience parce que j'ai entendu tout ça, j'ai emmagasiné tout ça. Et ça fait aujourd'hui de moi la personne que je suis, forte et faible de cette histoire-là. Donc, sans vouloir préjuger de mon vote final, il est évident que la chronique de Jean-Philippe...
Ah, là, les points. Aïe. Voilà. Plus de liens qu'avec le
néanmoins,
bouton.
Oui. Néanmoins, le bouton et le Kate et William loco, je dois dire, ça me titille aussi.
Ah, voilà. Jean-Philippe.
Alors, pour enfoncer le clou, je précise que l'histoire de votre père, vous la racontez dans un très beau livre que vous avez écrit avec Catel.
Que Catel a écrit. Voilà. Moi, j'ai servi de caution et de documentation.
Oui, elle, raconte qu'elle a beaucoup parlé de votre père pour qu'elle signe ce roman d'Egossini qui est sorti en août dernier. Eh ben, tiens, puisqu'on parle de ça, dans ce livre, on vous voit rendre visite au cardiologue de votre père avec un revolver. Vous nous racontez cette scène, c'est une scène fantasmée ?
Non, pas du tout. J'ai pas assez d'imagination pour imaginer une telle scène. Effectivement, mon père est mort d'une erreur médicale chez son cardiologue pendant le test de l'effort, puisqu'il faisait ce test de l'effort où donc on pédale sur un vélo avec des électrodes partout branchées à un électrocardiogramme. Et mon père décrit l'infarctus très clairement. Il dit « j'ai mal au bras gauche, j'ai mal à la poitrine ». Et le cardiologue, devant ma mère qui était dans la salle d'examen, lui dit « écoutez, monsieur Goscinny, j'ai pas de rendez-vous avant 15 jours, pédalez encore quelques secondes et l'examen est terminé ». Et il est mort à ce moment-là. Donc, inutile de vous dire, ma mère avait 35 ans, moi j'en avais 9. C'est le chaos au-delà. Et évidemment, ma mère m'a raconté cette histoire souvent, trop souvent. Et à 18 ans pile, le jour de mes 18 ans, j'ai pris rendez-vous sous un autre nom avec le cardiologue. Je suis arrivée chez lui avec un grand manteau. Alors en plus, je suis née fin mai, donc un manteau, ça faisait bizarre. Et la main droite dans la poche, et j'ai dit « voilà qui je suis, je vais vous buter ». Parce qu'en fait, vous avez fracassé mon enfance, évidemment. La vie de ma mère ne va pas survivre encore très longtemps. Effectivement, elle n'a pas survécu très longtemps. Je vais vous buter.
Et comment
type,
ça s'est résolu ?
Je pense qu'il y a cru une petite dizaine de minutes quand même. Et, ah oui. Et puis il m'a dit, mais je vous attendais. Et d'ailleurs, j'ai jamais reçu d'honoraire de votre famille, m'a-t-il dit.
Non.
Si, ça. Malheureusement, j'ai pas assez d'imagination pour inventer une histoire comme ça.
Mais surtout, il devait être heureux que vous ne l'ayez pas poursuivi.
Oui, je crois qu'il y a eu des. Que ma mère a essayé de le poursuivre, mais bon, elle était elle-même malade quand mon père est mort, elle avait un cancer. Donc tout ça a été vraiment une histoire assez glauque. Mmh. Et je peux me vanter de lui avoir fait un petit peu peur. Il a été quand même suspendu pendant 5 ans de son activité de médecin. Et puis j'ai raconté ça dans un livre, et puis je l'ai raconté à Catel, qui l'a joliment mis en scène, cette histoire.
Le roman des Goscinny qui est disponible. Anne Goscinny, vous restez avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et ce n'est vraiment pas le moment de se barrer, puisque dans quelques instants, vous aurez la chance d'être opposé à Eva Rock sur un test de culture générale qui va porter, attention, subtil hommage à Astérix, sur les noms en X. Et comme je suis du genre impatient, on va déjà se faire un pré-quiz sur les personnages d'Astérix. C'est parti. Eva, je vais vous donner 3 personnages. Vous me dites lequel n'apparaît pas dans les albums du Derzo et Goscinny. Goudurix, neveu pleutre d'Abracoursix, le chef du village. Mannequin Pix, tavernier belge de son état. Ou Frotix, une druide bretonne aux idées pionnières en matière de gynécologie.
Frotix.
C'est la bonne réponse, vous avez peut-être une chance.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Chaque jour, vers 5h-20, nos analystes notent un pic d'audience sur la cible des sadiques de 25 à 70 ans qui aiment entendre une niçoise raconter des salades. Oui les amis, ma chère Anne Goscinny, c'est l'heure du quiz qui oppose chaque jour l'invité à Eva Rock, une joute intellectuelle de haut niveau où Eva tente souvent de tricher, mais quand même pas aussi grossièrement que notre invité d'hier, Alessandra Sublet, qui a une technique assez formidable. Écoutez plutôt.
Mais oui, attends, vas-y, dis-le-moi parce que je l'ai.
Dis-le-moi parce que je l'ai. Alors celle-ci, j'en ai entendu des conneries. Hein. Bon, alors Anne Goscinny vous prévient, déjà qu'Eva n'est pas fortiche, n'essayez pas en plus de gruger. Comme dans Astérix aux Jeux Olympiques, pour donner le top départ, je citerai le nom d'un célèbre dieu grec.
Oh non.
Bah c'est une vanne de Goscinny.
Ah oui, oui, non, mais d'accord. Bon. Mais oui.
Anne Goscinny, pour notre quiz quotidien qui vous oppose à Eva, on va jouer sur les mots qui se terminent en isk ou en x. Hommage finaux à Astérix et Obélix. Vous jouez chacune votre tour. Une bonne réponse donne un point. C'est parti. Eva.
Oui.
Obélix est le seul personnage de la BD qui ne tire pas son nom d'une référence à un autre mot. Par exemple, Astérix, c'est rapport à un astérisque. Mais Obélix a rien. Vrai ou faux?
Ah si.
Ah oui.
Un obélisque.
Faux.
C'est faux.
C'est une référence à l'obèle qui est la barre horizontale de ces deux petits points qui forment le signe de la division. C'est un hommage au grand-père de René Goscinny qui était imprimeur pour des journaux yiddish. Est-ce que cette information est validée par Anne Goscinny?
Absolument, tout à fait.
Ah, parce oui. que moi, en la lisant, j'y ai pas cru. Je croyais que c'était l'obélisque aussi. Enfin,
Non, effectivement, c'est un signe typographique. Mon père vient d'une grande famille d'imprimeurs et d'éditeurs. Et d'ailleurs, ils ont écrit un dictionnaire hébreu-yiddish qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qu'ils ont terminé d'écrire en 1942. Donc, vraiment... Et mon père était très très fier de ses origines d'imprimeur.
Et donc c'était un clin d'œil.
Et c'était un clin d'œil.
Mais ça, je pense que personne ne le sait.
L'astérisque et l'obèle. Enfin,
franchement, moi, je ne le savais pas.
Pas du tout. Astérix, c'est aussi. Mon père disait que c'était aussi parce qu'il fallait un prénom qui commençait par A pour être au tout début des dictionnaires, si un jour...
Ah, donc il avait pensé un petit peu quand même que
oui,
ça allait devenir...
Oui, forcément, quand on écrit, on pense forcément reconnaissance seul dans sa solitude devant son clavier.
Oui, par exemple, à Is No Good, il n'y avait pas pensé.
Non, mais il a bien fait.
Anne Goscinny, jouons sur le mot suffixe, qui est, comme chacun sait, une suite de lettres à la fin d'un mot qui en modifie le sens. Exemple, claustrophobe, qui a peur des endroits confinés. Justement, il existe la peur d'avoir peur, la phobophobie. Vrai ou faux, Anne?
Ça pourrait être vrai.
Et c'est vrai. Il existe beaucoup de phobies. Il existe plein de phobies, Eva. Il y a même des phobies qui existent officiellement car elles ont été inventées. Un dessinateur américain, Gary Larson, a publié une BD, The Far Side, où son héros souffrait d'anatidaéphobie.
Ah, ça, c'était quoi?
La peur d'être observé par un canard.
Mais non.
Mais si. Mais pourquoi pas? On a le droit à avoir peur de tout et n'importe quoi.
Non, mais la phobophobie, vous m'ouvrez des horizons parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal
ça
de névroses et tout. Et tout
elle
d'un coup,
ouais,
je m'en rajoute une et qui vient synthétiser tout le monde. Et finalement, merci Mathieu.
Merci qui? Merci l'équipe Essolac. Eva Roth, Anne Goscinny, jouons ensemble sur le risque. Selon une étude suisse, donc très sérieuse, portant sur 2 millions de personnes, on a 14% de chance de quoi? Trois propositions. 14% de chance de mourir dans la ville ou le village où on est né, de mourir le jour de son anniversaire ou de mourir 20 ans après son conjoint.
Ah, moi je crois que je dirais jour de l'anniversaire.
Jour de l'anniversaire pour Eva. D'après vous, Anne?
Oui, bah en fait, c'est une émission qui vous donne le moral.
On est là pour ça. Hein.
Moi, j'ai envie de dire 20 ans après son conjoint. Comme ça, ça me laisse 20 ans de rab pour aller voir autre chose. Voilà, why not?
On l'embrasse. Hein. Et non, c'était une bonne piste. Mais non, on a 14% de chance de mourir le jour de son anniversaire. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a une conduite à risque, hein, souvent avec de l'alcool, des comportements dangereux.
Ah, c'est vrai, c'est ça? C'est lié à ça?
Et oui, et notez que d'une part, chez la femme, le chiffre tombe à 13,6% et que d'autre part, Dick Rivers est mort. Est né un 24 avril. Oui, Jean-Philippe?
Moi, je voudrais savoir qui sont les gens qui prennent le temps de se dire un jour, tiens, on va calculer la probabilité de mourir le jour de son
anniversaire. Ah oui, c'est vrai, c'est improbable.
Des chercheurs suisses.
Mais c'est débile.
N'insultez jamais les Suisses. Astérix chez les Helvètes, un des meilleurs Astérix. Parce que non, mais il est vraiment fabuleux celui-là. C'est celui que j'aime le plus relire. Quand mon fils me dit, on lit Astérix,
mais
je prends
les
Helvètes.
Oui, mais parce
que vous avez rien à voir avec mes origines
suisses.
Eva Rock, jouons sur le mot remix. Voici un remix de deux chansons, à vous de les trouver.
Il y a Rocky 4 et Adèle. C'est ça?
Non, c'est enfin,
Rocky 3, enfin je
ah, c'est Rocky... raté, c'était Rocky 3. Oh là 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 là, caramba. Oh, c'est dommage, vous étiez si près d'une victoire. Et non. C'était Adèle, Rolling in the Deep et Eye of the Tiger de Rocky 3. Anne Goscinny.
Je sens que je vais être nulle.
Il y a pas de raison, c'est possible mais pas plus qu'elle. Vous aussi vous jouez sur le mot remix, même principe, c'est parti. Je vois Jean-Philippe qui essaie de vous souffler. Est-ce que vous identifiez les deux chansons qui sont mixées là?
Ouais, alors Jean-Philippe a gentiment essayé de me souffler, mais alors moi je vais vous dire, j'ai trois passions dans la vie, quatre on va dire, Jean Ferrat, Anne Sylvestre, Georges Brassens et les frères Jacques.
Là, vous l'avez
alors,
pas reconnu.
Là, voilà, je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Alors il y a là, Michael Jackson.
Est-ce que Jean-Philippe peut répondre pour vous?
Ouais. Oui, c'est la batterie de Billie Jean de Michael Jackson et c'est les paroles de Cocaïne d'Eric Clapton.
Eh ben je vais faire mon Alessandra Sublet, oui, je l'avais.
Et donc, qui remporte le quiz? Eh bien c'est Anne Goscinny puisqu'elle l'avait. Elle l'a dit, donc il faut la croire, c'est l'invité. Alors Anne Goscinny, certaines expressions inventées par votre père sont devenues courantes. Comme tomber dans la marmite de potions magiques ou encore être calife à la place du calife. Ça, c'est ben, tout le monde l'emploie. Ça vous fait quoi quand vous entendez ces expressions? Ça vous fait un petit pincement au cœur?
D'abord, c'est quasiment quotidien, soit dans la presse, soit à la radio, soit à la télé. Il est tombé dedans quand il était petit. Il n'a pas trouvé la potion magique. Il a voulu être calife à la place du calife. Encore la semaine dernière, quand on a inauguré la statue de mon père, il y avait Anne Hidalgo qui a parlé d'Is No Good, qui veut être calife à la place du calife. Enfin bon, voilà tout ça. Et je dois dire que c'est un peu comme si mon père n'était pas tout à fait mort et continuait à me parler avec ses expressions. On parle le René Goscinny et ça, c'est très, très émouvant. Il a inventé des expressions passées aujourd'hui dans le domaine public, dans le langage public.
Si on devait trouver, ce qui n'est pas forcément très malin d'ailleurs, mais c'est toujours marrant, des héritiers à Goscinny, est-ce que Alain Chabat, Alexandre Astier, ce sont des noms qui... ça s'inscrit dans une filiation?
Oh, je dirais que Alexandre Astier a beaucoup, beaucoup de talent, probablement même du génie. Alain Chabat a dans mon cœur et au niveau de la filiation de mon père un statut très particulier, puisque quand j'ai lu le script d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, j'ai appelé Alain et je lui ai demandé comment ça se passe, tu fais tourner les tables, c'est mon père qui a écrit le scénario, parce que c'est vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était mon père transgressé de façon fertile, c'est-à-dire pour la bonne cause, et que c'était mon père remis au goût du jour. Et Alain, incontestablement, est l'héritier spirituel de mon père. Vraiment, il y en a un, c'est lui.
Ouais, on est d'accord. Hein, Astérix Mission Cléopâtre, ça reste le plus merveilleux des Astérix au cinéma.
Et d'ailleurs, j'ai offert à Alain, le jour de la première, les boutons de manchette que mon père portait le jour où il est mort pour lui dire, voilà. Alors, il n'avait pas de chemise ce jour-là pour mettre des boutons de manchette, c'était un peu la panique. Mais voilà, c'était vraiment une façon pour moi de lui dire de sa part merci.
Eh bien les amis, c'est une chose de chasser le sanglier à main nue, c'en est une autre que de battre Eva Rock sur un quiz de culture G. On peut dire encore bravo, Anne Goscinny.
Europe 1.
Eva, vous qui êtes férue de littérature, retenez bien votre souffle, ce que je vais vous annoncer est de l'ordre de l'énorme. Dans un collège de Besançon, on a retrouvé, tout à fait par hasard, un poème manuscrit d'un de nos plus grands auteurs.
Patrice Sébastien ?
Vous n'étiez pas loin, Victor Hugo. Comment ? Pourquoi ? On vous raconte la découverte de ce trésor juste après une nouveauté Europe 1. 900 miles, c'est The Avenir sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui vous prend tout ronchon à la sortie du boulot et qui vous dépose comme par magie tout jovial devant chez vous. Deux heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et même des meilleurs journalistes d'Europe 1 en région. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour Mathieu.
À Besançon, c'est l'émotion après la découverte d'un poème de Victor Hugo, un poème oublié, un manuscrit intitulé « Les enfants pauvres ». En fait, vous nous parlez de ménage aujourd'hui. C'est pas très poétique tout ça.
C'est ce qu'on croit Mathieu, mais écoutez cette histoire. Collège Victor Hugo le mois dernier, c'est donc à Besançon. Grand rangement de l'intendance. Saine idée, évidemment. Classement, archives, compta... Compta, archive.
Je me suis endormi déjà.
Victor Hugo, un manuscrit avec signature. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un original, véritable. Ah, voilà surtout ce que j'aime. Faible front dans l'ombre englouti, paré d'un triple diadème. Innocents, pauvres et petits, ils sont meilleurs que nous ne sommes. Ah, donnons-leur en même temps avec le pain qu'il faut aux hommes, le baiser qu'il faut aux enfants. Ça s'appelle donc Les enfants pauvres.
Mais alors, comment ce poème s'est retrouvé abandonné là ?
Alors, ces deux simples quatrains ont été offerts en 1868 par Victor Hugo à une loterie pour les indigents de Besançon, sa ville de naissance. Le lot, donc le papier avec le poème dessus, est ensuite racheté par un bouquiniste du coin, puis par la coopérative scolaire du collège en 1951. 6000 francs, fierté du collège, fierté oublié dans une armoire entre deux documents administratifs.
C'est dingue.
Oublié jusqu'au ménage du mois dernier. Il trône aujourd'hui ce poème dans le bureau du principal, très ému, dit-il, de l'avoir tous les matins sous les yeux. Et même si vous l'avez tout de suite compris en entendant un morceau à l'instant, Mathieu et Eva.
Eva, c'est ça ton
Eva.
Vous le savez évidemment, chers amis, ce poème est en fait un extrait légèrement modifié de Dieu est toujours là dans le recueil Voix intérieure de 1837.
Oh, mais c'est quand même une histoire incroyable. Et surtout, moi, si j'avais été le proviseur, je me le serais mis dans la poche et je l'aurais vendu.
Mais vous êtes horrible. Je vais faire un ménage de printemps chez moi, on ne sait jamais.
C'est jamais. Ben voilà. On va peut-être sur quelque chose d'intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Arthur Mbaché.
Europe 1.
Anne Goscinny, la fille de René, qui elle aussi a fini par se mettre à la littérature jeunesse, est notre invitée cet après-midi. Elle en a pris plein les yeux durant la première heure. La deuxième s'annonce encore plus mirifique, ou plutôt mirifixe. Puisque vous l'avez compris, on fête aujourd'hui les 60 ans du plus célèbre célibataire moustachu gaulois. Emmanuel Duteil et Jean-Philippe Ballas vont poliment s'éclipser, fiers du devoir accompli. Et deux nouveaux concurrents vont les remplacer. Deux hommes fort bien bâtis. J'espère que ça ne vous fait pas peur, Anne. Hier, Alessandra Sublet avait eu un peu peur.
Quand il a fallu enlever le bas, bon, moi je suis partie, même s'il y avait du matos.
Bien, avançons.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour notre épatante brochette de champion. Chaque après-midi, la fine fleur de la crème du haut du panier de Score Up, un compte de mieux en termes de journalistes, s'affronte au service de votre culture G et de celle de nos invités qui bien souvent s'exclament
« Ah bon ?»
Une deuxième heure se profile avec deux nouveaux journalistes, sport et littérature au programme et espérons moins de révélations douloureuses pour Eva Rock. Hier, la chronique sur le baiser, c'était coton.
Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée.
Ah bah alors je suis à mi-temps depuis longtemps.
Bon.
Europe 1. 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
La bonne humeur des bonheurs d'une comédie de Danny Boone, la violence de Kill Bill.
Bonsoir Biloute.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 entre dans sa phase décisive sous l'œil d'une invitée arbitre dont la voix comptera triple tout à l'heure, Anne Goscinny, qui nous accompagne pour évoquer le tome 4 du Monde de Lucrèce qu'elle signe avec la dessinatrice Catel. Ensemble, on évoque bien sûr également le souvenir de son père René Goscinny, le papa d'Astérix. Simplement le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, la plume de Marcel Proust, la vis comica de Tex. Nicolas Caro, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Votre père, qui aimait les jeux de mots, l'aurait adoré, Anne Goscinny. Dès qu'il peut en placer un, il y va, il se pose pas de questions, comme Jean-Claude Duss, il fonce.
Aujourd'hui, il va y avoir un système pour valider la photo de profil. Tinder va demander de vous prendre un selfie et il va analyser votre visage avec la photo de profil, voir si c'est conforme.
Il faut donc être de face pour la photo de profil.
Bonjour Nicolas Caron.
Je l'assume, je l'assume.
Ah oui, vous l'assumez, mais vous avez raison, hein, elle est excellente, hein, on peut vraiment se féliciter, on peut vous applaudir. Alors, on a tous entendu parler de la comtesse de Ségur, enfin, du moins je l'espère, mais ce soir, vous nous révélez 5 choses qu'on ne savait pas à son sujet qui vont nous permettre de briller dans les dîners.
Je vais vous les révéler à vous, mais pas à Anne Goscinny qui relit tous les ans la comtesse de Ségur.
Plusieurs fois par an. Ah, d'accord. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez choisi le sujet.
Eh ben, oui.
Ah, ça va vite dans ma tête. À ses côtés, Anne Goscinny, c'est aussi quelqu'un qui lit énormément.
Vous avez lu dans le JDD là, l'histoire de ses sextoys, là, vous n'avez pas lu?
Oui, non. Oui. Bonjour, Jérôme Lacroix. C'est pas les mêmes, c'est pas Bonjour, la comtesse Mathieu. De Ségur. Vous êtes notre expert sport, Jérôme, et ce soir, vous nous dressez le portrait d'une légende de tennis dont les propos font polémique.
C'est exactement ça, une légende du tennis, vous l'avez dit. Elle est australienne, je vais vous raconter son histoire. Elle s'appelle Margaret Court, peut-être vous ne la connaissez pas. Elle a 77 ans, c'est le plus gros palmarès mondial de l'histoire du tennis féminin et
mais
même de l'histoire du tennis tout court. Alors le problème, c'est qu'elle a parfois des tendances racistes, xénophobes, homophobes.
Ah oui, donc c'est bon, une championne
on vous raconte
embarrassante.
Qu'elle est bien embarrassante pour l'Australie.
Alors, les secrets de la comtesse de Ségur ou bien la tennis woman facho, quel sujet vaincra? Pour l'heure, tournons-nous vers notre invité. Si on vous dit Anne Goscinny, vous pensez à quoi? On vous a posé la question. Voici non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour faire croire à l'invité qu'il est la 8e merveille du monde. Non, voici notre micro-trottrache. C'est la même chose, voilà. Sans le montage flagorneur.
Voilà, voilà.
Anne Goscinny, la fille de Goscinny.
René Goscinny. Bah ça évoque Astérix.
Sampé et Goscinny, le petit Nicolas, tout ça, enfin voilà.
C'est un humour fin, je pense. Hein. Dites pas dater, c'est celui que j'aimais quand j'étais petit.
Anne Goscinny, oui, c'est une voisine à mon amie. Je suis la maman de Tiffany, elle la connaît bien.
C'est pas elle qui dessine, elle a juste de distribuer Astérix dans tous les pays du monde. Hein, ça va, c'est pas trop difficile. Et puis donner les autorisations pour faire les films derrière, c'est pas compliqué. Hein.
C'est une femme très simple, très très simple.
Bah, ça évoque Astérix.
Le dernier, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lu encore. Mais je préférais quand même les premiers.
Alors, oui, c'est facile. On
Anne
donne,
Goscinny, c'est
on
facile. C'est
fastoche
de gérer l'héritage de Goscinny.
Non, mais d'abord, oui, enfin, c'est un tout petit peu réducteur, monsieur.
On va le retrouver. On va lui donner son numéro de téléphone.
Mais oui, c'est ce qu'on appellerait en bon français un full-time job, effectivement, ouais. Parce que le droit moral est quelque chose de très compliqué à exercer aussi. Puisqu'il faut se mettre dans les pas de l'illustre prédécesseur en étant le plus léger possible, presque fantomatique, et tout en faisant respecter ce qu'on imagine être sa volonté. Donc c'est pas si simple, monsieur.
J'ai pris avec moi un de mes Astérix que j'aime bien, Astérix et le chaudron, et dedans, votre papa a déjà plaisanté du côté du succès monétaire quelque part d'Astérix, puisque Astérix a une dette envers un autre chef de village, et il doit récolter de l'argent, il doit remplir le chaudron avec des sesterces, et à un moment, ils ont du mal avec Obélix à en trouver, Astérix dit, il faudra gagner cet argent. Et Obélix dit, gagner de l'argent, mais on n'a jamais fait ça. Eh bien, il faudra commencer. Et Obélix dit, et si on racontait nos aventures aux gens? Peut-être qu'ils nous paieront pour les entendre. Et Astérix dit, je m'y connais pas en affaires, mais je peux te dire que ça rapportera jamais d'argent.
Mon père grand visionnaire. Ouais.
Et c'est vraiment très drôle, cette mise en abîme-là. Donc, j'imagine qu'il aurait pu... À l'époque, ça marchait déjà très fort, Astérix, je ne m'en rends pas compte.
Oui, ça a marché très fort
économique.
Tout de suite. D'abord, c'est publié dans Pilote, puis ensuite en album. Et le premier tirage est à 5000 exemplaires. Et je crois que le troisième tirage est à 2 millions. Enfin, ça, ouais, c'est exponentiel rapidement.
Déjà énorme. Quel regard vous portez, des gens dans le micro-trottoir en parlaient, sur les derniers albums, sur les différences entre les albums qui étaient écrits par Goscinny, ceux ensuite seulement par Uderzo, et les nouveaux albums? Est-ce que vous êtes contente de ce que vous lisez?
Alors d'abord, il faut savoir que j'ai énormément milité pour qu'Astérix ait une troisième vie. Astérix a eu une première vie jusqu'à 77, une deuxième vie quand Albert Uderzo, avec le génie qu'on lui connaît, a continué Astérix. Et c'était pas facile parce qu'au lendemain de la mort de mon père, les journaux télévisés, papier, on titrait Astérix orphelin. Or, non, il lui restait un père. Et je trouvais qu'Astérix était suffisamment fort et les codes mis en place par les deux créateurs étaient suffisamment forts pour lui donner une chance, contrairement à Tintin, de survivre. Donc on a fait un casting, entre guillemets, de scénaristes et dessinateurs, surtout de scénaristes, puisque le dessinateur s'est imposé. Et en confiant à Jean-Yves Ferry pour quelques albums les rênes de la nouvelle vie d'Astérix, je pense qu'on a fait le meilleur choix possible. Et effectivement, ce sont des albums qui sont de très très bonne qualité. Et moi, je suis très très heureuse de cette troisième vie d'Astérix.
On continue de rire et de découvrir avec la fille de l'inventeur de la potachologie, science dans laquelle je me suis spécialisée, Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, elle était si élégante sur le court. Record woman du nombre de grands chelems, elle était une légende du tennis féminin et rien, absolument rien, ne permettait d'imaginer qu'elle était complètement facho et xénophobe. Bon, sauf peut-être la fois où à l'US Open, elle avait contesté un point à Serena Williams. Ah oui, vraiment, on ne pouvait pas s'en douter. Margaret McCourt ne fait plus rire l'Australie. Portrait d'un mythe qui dérange.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Anne Goscinny est toujours avec nous. Elle publie chez Gallimard Jeunesse Le Monde de Lucrèce, tome 4. On continue d'en parler. Mais voici Anne, le troisième concurrent de notre grand tournoi journalistique. Qui de mieux que Jérôme Lacroix pour dresser le portrait d'une grande sportive, hélas, un brin intolérante. La légende du tennis australien Margaret McCourt. Personne, car Jérôme Lacroix est non seulement balèze en sport, mais encore plus balèze en tolérance, comme il nous le prouve à chaque fois que dans le journal des sports, il passe un extrait d'une conférence de presse de Thomas Tuchel.
Nous travaillons dur ensemble, c'est un peu compliqué pour nous depuis quelques semaines.
C'est la grande vadrouille.
Jérôme, on comprend que vous soyez indigné par les récents propos de Margaret McCourt.
J'en répondais à une de vos vannes.
C'est vrai, c'est pas bon. Je suis vraiment une vraie ordure.
C'est vrai.
Je suis vraiment dégueulasse. Alors, c'est quoi cette championne qui dérange?
Je vous raconte. Lundi dernier, Melbourne, en Australie, diffusion d'un clip vidéo sur les écrans géants du principal court de tennis de l'Open d'Australie. Parce qu'on célèbre ce jour-là les 50 ans d'un formidable record sportif. Une femme, joueuse de tennis australienne, était parvenue en 1970 à remporter en une seule année les 4 tournois majeurs du circuit. C'est rarissime. Cette femme, elle est là, ce jour-là, sur le terrain. Elle reçoit les honneurs des officiels. Elle s'appelle Margaret Smith Court, 77 ans aujourd'hui, l'une des plus grandes sportives de l'histoire. 24 tournois majeurs remportés, record inégalé. Pourtant, eh bien cette cérémonie elle va tourner court. Il y a eu le petit clip, il y aura 3 photos, pas de discours. Margaret Court, c'est cette championne dont l'immense palmarès est proportionnel à l'embarras qu'elle provoque en Australie.
Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche?
En 1970, elle disait « L'apartheid alors en vigueur en Afrique du Sud, c'est bien, c'est le pays le mieux organisé sur la situation raciale », disait-elle.
Ah
plus
oui.
Récemment.
Ah oui, ça va loin. C'est
plus
pas...
récemment. Le tennis est plein de lesbiennes qui attirent les jeunes dans des fêtes. Oh. Ou encore, les transgenres sont l'œuvre du diable. Voilà le problème. Les déclarations racistes, homophobes de cette pasteur pentecôtiste. L'affaire, elle est très commentée en Australie.
Tennis great Margaret Court.
Ici, c'est The Bolt Report, une émission politique de débat du journaliste Andrew Bolt, qui a l'antenne depuis près de 10 ans, donc une émission très sérieuse, parce que c'est la question qui se pose, d'ailleurs aussi dans d'autres domaines, distinguer la personne de l'artiste, ici la femme de la sportive. Alors distinguer la femme de la sportive, c'est la position choisie par la Fédération australienne qui a honoré Margaret Court, je viens de vous le décrire, tout en communiquant en ces termes, sont les termes de la Fédération, ces vues blessantes et rabaissantes ne correspondent pas à nos valeurs. Bon, ils l'honorent, mais ils font cette communication-là. Oui. Une fédération, toutefois, qui était en colère mardi dernier contre un homme qui y est allé de sa vidéo sulfateuse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il faut qu'on trouve un remède pour le tennis. La qualité de l'air à Melbourne n'est pas le seul cauchemar de la Fédération australienne. Margaret Court en est un autre. Cet homme qui apparaît ici en médecin, blouse blanche et stéthoscope derrière le cou, c'est John McEnroe, l'irascible champion américain qui a 60 ans aujourd'hui, super détracteur de Margaret Court.
Tennis Australia is facing a dilemma. What do they do? With their crazy aunt.
La fédération est face à un dilemme, dit-il. Que faire de la tante folle dingue? Elle a choisi d'honorer Margaret Court, cette fédération, en séparant la femme de la sportive.
Hein?
Mais ça marche pas comme ça, il s'emporte. Margaret Court est une ventriloque qui utilise la Bible pour les nuls pour dire ce qu'elle veut.
Les méthodes de McEnroe énervent à ce point la fédération en colère qu'il a dû s'excuser.
Oui, alors pas pour cette vidéo, mais pour une banderole qu'il a affichée mardi dernier sur un court de l'Open d'Australie, un court baptisé depuis 2003 la Margaret Court Arena. Mais oui, elle a un cours à son nom, cette dame. McEnroe, il milite pour que ce cours change de nom avec sa compatriote Martina Navratilova, homosexuelle assumée. Hein. Il propose que ce terrain s'appelle la Yvonne Goulagong Arena. C'est ce nom qui était inscrit sur la banderole qu'il a déployée, qui a énervé la fédération. Yvonne Goulagong, première aborigène australienne à avoir remporté un tournoi majeur dans les années 70, ce serait un sacré symbole. Je vous parlais de Martina Navratilova, et bien ce jour-là, elle a tenté de prendre le micro pour parler de tout ça au public du cours. Micro coupé et retransmission télé interrompue.
Eh bien, merci Jérôme. Une analyse à chaud de votre prestation ?
Je savais que j'allais vous scotcher avec ça.
Votre chronique mérite-t-elle néanmoins les 3 points ? Ce n'est pas vous qui décidez, Jérôme, malheureusement, sinon vous serez octroyé 3 points visiblement assez facilement. Le verdict de nos auditeurs et de notre invité Anne Goscinny tombera juste avant 18h.
Europe 1.
Qu'allons-nous regarder ce soir à la télé ou sur l'un des nombreux écrans qui nous entourent ? Entre Netflix, OCS, MyCanal, Amazon Prime, on se sent parfois oppressé par tant de choix. Dans ces cas-là, que faire, Jérôme, pour se décontracter ?
Un petit peu de...
Écoutez les conseils télé des Baroque qui prend le temps de tout visionner en amont pour vous. Ces choix du soir, juste après Balance ton quoi sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage bat son plein. 2 heures pour étoffer votre culture G tout en musclant vos zygomatiques en compagnie des plus truculents zygomards d'Europe 1 et d'une invitée d'honneur qui entretient parfois avec certains de nos zygomards des liens étonnants. Voir comme hier, borderline.
Quand je te vois maniçoise comme ça, j'ai envie de te faire des bisous partout.
Alors Anne Goscinny, si comme Alessandra Sublet hier, l'envie vous prend soudain de faire des bisous à notre niçoise, sentez-vous libre. Anne Goscinny, Le Monde de Lucrèce, tome 4, c'est le livre que vous signez, Anne Goscinny, avec la dessinatrice Catel. Est-ce qu'on pourrait imaginer une adaptation télé ? Ça irait très très bien.
Oui, parce qu'on pense à Esther de Riyad Sattouf qui arrive sur Canal+, en
animation. Moi, j'en rêve, donc ouais. Avis aux producteurs qui forcément écoutent l'équipe et sauvage tous les jours.
N'écoute que notre émission.
Moi, je rêve d'un... Peut-être pas forcément d'un dessin animé, mais d'un live, je sais pas, une petite pastille de 5 minutes le soir, juste après le JT, juste avant le JT. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour arriver pas trop haut quand même. Donc voilà. Et puis j'ai plein d'idées de casting et ça pourrait être super sympa. En plus, je
crois que vous imaginez qui dans le casting ?
Est-ce que je peux vous tout vous dire ?
Ah oui.
Alors, je rêverais de Catherine Deneuve dans Scarlett.
Oui, ça serait bien.
Il faut qu'on rappelle la grand-mère qui
picole.
La grand-mère qui picole.
Un rôle de composition pour Catherine, évidemment.
Voilà, qui porte de la vraie fourrure, qui a des amants, je ne me souviens plus de leur prénom. Enfin, j'ai plein d'idées.
Un mot du prochain Astérix, le film qui sera réalisé par Guillaume Canet avec Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre, avec, paraît-il, un budget absolument pharaonique. Vous êtes impliqué dans la production, vous avez un droit de regard là-dessus, les auditeurs peut-être se posent la question de savoir si quand un film se fait, hop, ça passe par Anne Goscinny.
Bien sûr, j'ai un droit de regard puisque je suis la voix et les yeux de mon père, donc à ce titre, j'ai un droit de regard. J'ai aussi un droit de regard parce que j'aime le cinéma profondément, j'aime la littérature, j'ai fait de longues études de lettres, donc voilà, je sais parfaitement lire un scénario, je sais dire ce qui va pas et ce qui va, et surtout j'ai un truc, et je pense être la seule au monde à avoir ce truc-là, la fille qui se vend quand même, hein. J'ai l'oreille absolue de l'œuvre de mon père. C'est-à-dire que quand on me donne un mot ou une expression, je peux dire c'est dans l'œuvre de mon père ou c'est pas dans l'œuvre de mon père. C'est une espèce d'oreille absolue.
Vous voulez dire que ça y est textuellement ou ça pourrait y être ?
Non, ça y est textuellement. C'est-à-dire que c'est une œuvre que j'ai tellement lue et relue. C'est-à-dire qu'à 9 ans, quand il est mort, j'ai compris que désormais, pour entendre sa voix, il faudrait que je tourne les pages d'un livre. Donc, c'est une œuvre que je me suis non pas appropriée, j'aime pas du tout ce mot, mais que je connais parfaitement. Et donc, je sais quand on est dans ce que mon père aurait pu écrire, ou je sais quand on dévie et quand on n'est pas juste. Donc à ce titre, je suis plutôt une valeur ajoutée pour les scénaristes qui me demandent mon avis, autrement qu'à titre du droit moral, enfin un avis de justesse plutôt.
Et maintenant que vous donnez dans le roman jeunesse, une question se pose, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous signerez pas un album d'Astérix ?
Ah, oula ah. Je pense que ce bégaiement, peut-être que je vais l'entendre demain ou après-demain dans l'équipe sauvage avec Anne Goscinny et les idées claires, et là on va entendre parce que dans ma psychanalyse, j'en suis pas encore là. Voilà, donc là j'en étais au récit jeunesse, mais c'est très compliqué d'écrire une bande dessinée. Peut-être que ce qui se rapporte le plus de la bande dessinée, c'est l'écriture de chansons. Et moi, j'adore la chanson française. Et je pense que comme dans une chanson, dans une bande dessinée, on a très peu de place et c'est très formel pour émouvoir, faire rire, faire pleurer, raconter une histoire. inventer une chute. Mais pour l'instant, Astérix et moi, on est trop proches et trop liés pour que je me mêle de son destin comme ça. En tout cas, je me mêle de son destin autrement.
Pas encore, et donc la réponse que j'ai entendue. Alors le saviez-vous, ma chère Anne Goscinny, on passe désormais en moyenne 17 minutes chaque soir, c'est une étude de l'université d'Oxford qui nous dit ça, devant l'écran d'accueil de Netflix pour savoir ce qu'on va regarder. Heureusement, il y a désormais Eva Rock et sa chronique légendaire,
alors,
mythique.
Mais mythique, 17 bien sûr. Ouais, j'adore Eva Rock, moi. Je suis fan.
N'en faites pas trop.
Tout à l'heure, Jean-Philippe nous avait amené à Tel Aviv. Je vais vous emmener à Jérusalem et je vais commencer par vous faire écouter une déclaration du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
C'est incroyable. C'est une télé de gauche, gauchiste, militante, menteuse, soviétique, bolchevique.
Alors, vous le sentez, le premier ministre, il est très énervé par une chaîne de télé, alors avouez que c'est un peu intriguant. Eh bien, c'est d'autant plus intriguant que le programme qui est mis en cause par Netanyahou est une série israélienne que Canal+ diffuse à partir de ce soir, une série inspirée de faits réels qui se sont déroulés à Jérusalem. Ça s'appelle Our Boys et ça raconte l'assassinat d'un jeune Palestinien en représailles au kidnapping et à la mort de trois ados israéliens. On était à l'été 2014 et ça a débouché sur l'épisode du conflit israélo-palestinien le plus meurtrier depuis la guerre de six jours. Série politique donc, mais qui est traitée alors à la fois comme un thriller et comme un drame psychologique, parce que l'intérêt, c'est aussi d'expliquer les mécaniques de la haine et de la vengeance qui se mettent en place dans ce moment-là. Alors, aux yeux de Netanyahou, l'empathie qu'on peut ressentir pour la famille palestinienne est absolument insupportable, au point qu'il qualifie la série d'antisémite. Et pour le cofondateur de la fiction, Hagai Levy, c'est la meilleure des publicités qu'il pouvait espérer pour la série. Surtout que lui a fait attention à travailler à la fois avec des Arabes et à la fois avec des Juifs pour cette fiction. C'est absolument magistral, cette fiction. Vraiment, je vous la recommande. Le traitement, la narration, la réalisation, l'interprétation. Pour tout vous dire, j'ai parfois été en apnée devant certains épisodes. C'est très intense. Et si vous voulez comprendre aussi pourquoi il y a une multiplication de séries israéliennes, alors qu'ils sont soit adaptées, soit qui s'exportent dans le monde entier, en melon, on sait que par exemple, c'est une adaptation. Eh bien, je vous conseille vivement le documentaire qui suit les deux premiers épisodes de la fiction. Ça s'appelle Israël, terre de série. C'est une soirée très réussie pour Canal+. Vraiment, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu une série politique aussi intense.
Ce soir, on reste scotché.
Ah oui, vraiment. Une des meilleures séries que moi j'ai vues, je ne suis pas très série, est une série israélienne. Ça s'appelle Les Shtitzel.
Bien sûr, et ben, on en parle dans le documentaire.
Mais c'est extraordinaire, avec du yiddish extraordinaire.
Tout à fait, tout à fait.
Et bien voilà, double conseil, triple conseil même. C'était 17 minutes de gagner. Merci Eva Rock et Anne Goscinny.
Europe 1.
À suivre, la lutte fratricide qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 continue. Nicolas Carreau va entrer en piste avec ses 5 choses que vous ne saviez pas sur la comtesse de Ségur pour briller dans les dîners. Pour décrocher la précieuse couronne et déstabiliser son adversaire, le redoutable Gégé Lacroix, Nico le sait, il ne lui faudra reculer devant rien.
Mais oui, on avait dit pas les dents, merde.
Non, pas les dents.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il y a des deals win-win et il y a des deals win-lose. Pour les journalistes d'Europe 1, l'équipe est sauvage appartient clairement à cette deuxième catégorie de deals. Car chaque après-midi, nos journalistes désormais en compétition pour une couronne en plastique sacrifient leur dignité sur l'autel de votre savoir. Pour décrocher le vote le plus important, celui de l'invité, ils le savent, leur chronique en soi ne suffit pas. Encore faut-il nouer un lien de complicité avec l'invité. Sauf que parfois, comme Axel de Tarlet l'a constaté hier, ça ne suffit pas.
Bon alors j'ai bien vu que j'ai pas fait un tabac avec ma chronique sur les stations de ski, mais j'espère avoir touché votre corde d'ancienne lyonnaise.
Ouais, ça, faut faire attention, ça marche pas tous les coups. Nicolas, avec Axel, vous faites partie de ces mecs qui ne peuvent pas tout miser sur la complicité avec l'invité. Vous êtes notre dernier concurrent du jour. Anne Goscinny vous écoute. Ne lui faites pas le coup du fan d'Astérix, je lui ai déjà fait.
Mais non, mais c'est une coïncidence en plus. Mais je voulais parler de la comtesse de Ségur. Et il se trouve, on l'a dit tout à l'heure, que Anne Goscinny est une grande fan de la comtesse de Ségur.
Quelle heureuse coïncidence.
Parce que tout le monde a lu la comtesse de Ségur.
Oui, sauf
petit,
moi.
Petit.
Oui, je l'avoue, je l'ai pas lu.
Oui, enfin presque tout le monde. Mais il y en a qui continuent à le lire passé 30 ans. Et donc, c'est le cas d'Anne Goscinny, mais alors elle va savoir tout ce que je vais dire là, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la vie elle-même de la comtesse de Ségur, qui est aussi incroyable que ses romans, voire plus. D'abord, bon, elle ne s'appelle pas la comtesse de Ségur, ça c'est son nom d'épouse, elle s'appelle Sophie Rostopchine. Elle vivait en Russie dans une très grande famille. Son père, c'était Fyodor Rostopchine. Mathieu, ça vous dit quelque chose? C'était le gouverneur général de Moscou.
Évidemment, bien avant. Et jusqu'après Piotr Alexandrovitch, qui était juste avant lui. Hein, si je me souviens, il a passé son mandat
d'ailleurs. En 1812, l'armée de Napoléon attaque, ils arrivent à Moscou
Et Rostopchine décide de mettre le feu à Moscou. Et donc, c'est l'incendie de Moscou. Toute la ville brûle pour chasser Napoléon. Et ça va fonctionner, d'ailleurs. Sauf qu'ensuite, on lui a un peu reproché d'avoir brûlé toutes les baraques.
D'avoir un peu cramé Moscou.
Même si on a viré les Français. Bon. Et donc, il a dû s'exiler. Même si, bon, certains l'applaudissaient quand même. Mais bon, tout ça pour dire qu'il se retrouve à Paris. Et que c'est comme ça que Sophie, donc sa fille, se retrouve elle aussi à Paris. Elle rencontre Eugène de Ségur. Alors elle rencontre, c'est un peu arrangé, hein, on est au 19e siècle. Au début, ça se passe bien. Elle est plutôt contente. Et puis, assez vite, elle se rend compte que non, ça ne va pas le faire du tout. Donc, il se voit quasiment jamais. En fait, lui est très volage. Et puis, ils sont mariés femmes sur le papier, mais en fait, ils se connaissent très peu. Ils vont quand même avoir 8 enfants.
On peut se connaître et finalement quand même progrès pas mal. Hein, oui.
Et ce qui est terrible, c'est que la comtesse de Ségur, donc maintenant elle s'appelle la comtesse de Ségur, avait des problèmes dépressifs graves et parfois ça se traduisait par des semaines entières de mutisme et elle écrivait sur une ardoise pour communiquer avec sa famille, avec ses enfants, etc. Et puis donc elle écrivait et un jour elle rencontre un type de Hachette, la maison d'édition.
Louis Hachette.
Et voilà, et qui lui propose de publier les nouveaux contes de fées, qui est un recueil en fait des contes qu'elle racontait à ses enfants. Mais elle avait 57 ans. Et donc son premier livre, qui est un succès immédiat, elle le publie à 57 ans seulement.
Et donc là, elle a des thunes, elle peut se casser.
Alors, non, parce qu'elle ne touche pas les droits d'auteur directement, c'est son mari qui les touche.
Ah, une belle époque. Voilà.
Quand il va mourir, elle va les récupérer.
Voilà.
Et alors, elle le publie dans une collection qui s'appelle la Bibliothèque des Chemins de Fer, qui est en fait l'ancêtre de la Bibliothèque Rose. En fait, dans la Bibliothèque des Chemins de Fer, il y avait une collection qui était en rose et qui est devenue ensuite la Bibliothèque Rose. La Bibliothèque des Chemins de Fer, parce que c'était vendu pour les voyageurs dans les gares. Et c'est comme ça que c'est né. Et c'est en fait une des premières et c'est la plus célèbre de celle qui a lancé la Bibliothèque Rose, en fait, pour résumer. Et donc, on a eu les malheurs de Sophie ensuite, les petites filles modèles, un beau petit diable, les deux nigauds, chacun a son préféré.
Je crois qu'Anne Goscinny a une préférence.
Voilà, Anne Goscinny, c'est lequel déjà ?
Oh, moi, je les aime tous, mais j'aime particulièrement les petites filles modèles et les vacances. Les vacances suivent les petites filles modèles. Les petites filles modèles suivent les malheurs de Sophie parce que c'est assez chronologique,
oui,
en fait.
Parce que les personnages reviennent.
Il faut dire que
Sophie
tous,
revient
il faut,
dans les petites filles
et il faut
modèles,
dire que tous ces textes sont dédiés à chacun de ces petits enfants.
Voilà. Chaque texte est pour
attendez,
un des petits enfants.
La question d'un néophyte pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas lu comme moi. On commence, en fait, c'est chronologique, donc il vaut mieux commencer par le premier. En fait.
On commence par ce qu'on veut.
Ah, oui. Mais on va comprendre quand même.
Alors Mathieu, je vais vous faire une petite liste.
Merci.
On va faire
une petite liste. Heureusement que vous êtes là.
Ce qui est assez terrible, en revanche, c'est qu'on a souvent pensé, sans être tout à fait sûr encore, que Sophie, donc la comtesse de Ségur, a été maltraitée dans son enfance et que c'est ça ce qu'elle retranscrit aussi avec Sophie notamment et certains des enfants maltraités dans les livres. Et ça, c'est le côté un peu triste. Mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est Nabokov qui a fait une partie de ses biographes et qui considérait que c'était sans doute ça. Elle est morte en 1874. Elle est inhumée à Pluneret dans le Morbihan. Et donc son épitaphe, on parlait de ses enfants, c'est « Dieu et mes enfants ».«
Dieu et mes enfants », ça résume tout.
Et elle est enterrée à côté de son fils Gaston.
Et
d'ailleurs, dans un de ses romans qui s'appelle Le Général d'Ourakine, on se demande dans quelle mesure elle n'a pas mis un peu son père en scène avec ce portrait de général complètement caractériel et violent.
Anne Goscinny, outre la littérature, on parlait de la comtesse de Ségur, la musique occupe aussi une grande place dans vos passions. Oui. Vous avez même d'ailleurs écrit une chanson pour Serge Reggiani et une autre avec Julien Doré pour le petit Nicolas. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Je suis passionnée par la chanson française, en particulier par une artiste qui s'appelle Anne Sylvestre, qu'on connaît vraiment pour son répertoire pour enfants, qui s'appelle Les Fabulettes, mais qui a pour adulte un répertoire engagé, féministe, remarquable. Et c'est la grande passion de ma vie. Il y a des gens, c'est les Rolling Stones, moi c'est Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent
pas. Anne Sylvestre, quand on écoute les Fabulettes, il faut découvrir Anne Sylvestre, les chansons pour adultes, entre guillemets, les chansons engagées, voilà. Les belles chansons.
Bon, ben voilà. Moi, je rate pas un concert d'Anne Sylvestre. J'emmène mes enfants, et mieux que ça, quand ils étaient petits, ma seule façon de leur faire écouter les chansons un peu engagées d'Anne Sylvestre, c'était de les enfermer dans la voiture. je verrouillais les portes, on roulait un peu, et du coup, ils chantaient finalement des chansons d'Anne Sylvestre engagées.
On parlait de la maltraitance.
Voilà. Et finalement, aujourd'hui, ils ont une culture un peu hétéroclite. Et ils aiment ça, et voilà. Mais bon, je suis aussi dingue de Brassens, de Léo Ferré, de Jean Ferrat, des frères Jacques. J'adore les frères Jacques.
Ah, les frères Jacques.
Voilà, c'est
moi
tout
donc.
Ça. Voilà, c'est vrai que c'est avec la littérature, c'est ma grande passion.
Anne Goscinny, on est pas mal là.
On est vachement bien.
Vous restez avec nous.
Complètement.
Ça m'arrange. L'heure du dîner approche, les amis. Olivier Pouls n'est fatalement pas bien loin. Il partage le même indice glycémique que Gérard Depardieu. Et toute ressemblance avec un personnage un peu enveloppé créé par René Goscinny ne serait pas tout à fait fortuite.
Ça manque de sanglier et de cervoise ici. Grand appétit va tout.
Pour votre recette express ce soir, il voulait partir sur une terrine de sanglier. Je lui ai dit que ça faisait quand même un peu lourd. Alors il vous expliquera comment concocter de délicieux tempura. A tout de suite pour Delice in Extremis.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est dans une ambiance toujours aussi joyeuse que l'équipe est sauvage se poursuit. On aurait pu craindre en début de saison que cette idée d'opposer les uns aux autres les journalistes de la rédaction débouche sur des tensions, voire des inimitiés au sein de l'Open Space. Finalement, il n'en est rien. Comme Anne Goscinny, notre invitée, a pu le vérifier en traversant tout à l'heure la rédaction où régnait une belle sérénité.
Vous faites tout chier ! Tous autant que vous êtes ! Moi, après ! Tu disais toi-même qu'il fallait qu'on reste solidaire. Va fermer ta gueule.
Non, rien, quelqu'un aura pris le dernier balisto au distributeur, ça arrive de temps en temps, rien de grave. C'est comme dans le village d'Astérix, ça, il se cogne dessus, mais il s'aime au fond. Hein. Alors, Anne Goscinny, et non pas petite Anne Goscinny, comme je l'ai écrit sur mon texte, je sais pas, parfois je m'étonne,
petit
je sais pas.
Nicolas,
comme... Oui, petit Nicolas, ouais. Je sais pas, il y a une rature, donc bref.
Je fais 1m58, hein, donc c'est pas complètement...
Oui, mais c'était totalement involontaire de ma part. Je ne suis quand même pas goujat à ce point-là. C'est quoi la BD ou le personnage préféré que votre père ait créé? Astérix, le petit Nicolas, Is No Good, Lucky Luke, dont il a signé plusieurs scénarios aussi. C'est quoi
42
votre...
scénarios quand même, hein, on est au-delà du plusieurs.
Ah oui, effectivement, oui. Pardon.
Alors, et je vais Oum Papa, et ça. Oum Papa aussi.
Et Oum Papa aussi. Quel est votre personnage préféré s'il devait en rester qu'un?
Alors, c'est comme si vous me demandiez de mon fils ou ma fille lequel des deux je préfère.
D'accord.
Ce sont des personnages, d'abord, ce sont des personnages sur lesquels je veille avec autant de tendresse et de bienveillance. Maintenant, je vais vous faire une drôle de réponse. On n'a pas tous été gaulois, on n'a pas tous été cow-boys, on n'a pas tous été vizirs ou califes, mais on a tous été enfants. Et peut-être que quand je lis le petit Nicolas, je me suis imaginée souvent que mon père, qui ne peut plus me raconter son enfance, me la raconte là.
À travers ça.
Et donc, c'est peut-être le personnage qui me touche le plus, mais il n'y a pas de préférence.
Est-ce que c'est exact que le seul personnage négatif, c'est Is No Good? Enfin, qui a un peu d'un caractère
un peu méchanceté, parce qu'il est exclusivement méchant.
Ouais.
Et on sait, quand une aventure d'Is No Good commence, on sait comment elle va se terminer, puisqu'on sait qu'il va échouer.
Oui.
Et pourtant, c'est merveilleux.
Et c'est le seul méchant de l'œuvre de votre père?
C'est le seul méchant. Et il y a une chose qu'on sait peu, c'est que dans l'œuvre de mon père, il n'y a aucun mort. C'est-à-dire que les bandits sont couverts de plumes et de goudron et repartent au pénitencier. Les Romains se prennent des baffes, etc. Il n'y a aucun mort.
On évoquait tout à l'heure cette statue de votre père qui a été inaugurée à Paris. C'est la première statue en l'honneur d'un auteur de bande dessinée à Paris, je crois.
Oui, absolument.
Mais enfin, il était temps quand même.
Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de musée de la bande dessinée à Paris. Il n'y a pas de monument honorant la bande dessinée. Alors que Catherine Meurice, justement, vient de rentrer à l'Académie
des Beaux-Arts.
Et je pense que si mon père avait vécu, peut-être il serait rentré un jour à l'Académie française.
Ah oui,
je ne sais pas.
Peut-être, oui.
Mais il y a une espèce de reconnaissance qui est en voie en marche, là, je suppose, de la bande dessinée, le 9e art.
Aujourd'hui, on parle de 9e art. Quand votre père nous a quittés, on ne parlait pas encore de 9e art.
Non, je ne sais même pas si on parlait d'art.
On parle beaucoup du statut de la BD et du statut des auteurs de bande dessinée en ce moment avec la publication du rapport Racine. Ça, c'est quelque chose qui l'aurait mobilisé. Il était, je crois, il se battait déjà à travers Pilote pour la reconnaissance des auteurs.
Alors,
et leur statut.
Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est mon père qui a imposé que le nom du scénariste figure sur la couverture de l'album. C'est-à-dire que les premiers Lucky Luke qu'il écrit, donc à partir du volume 10, enfin du 10e volume, il n'y a pas son nom. Il y a juste le nom de Maurice et lui apparaît en page de garde dans l'album. C'est lui qui imposera que le scénariste figure sur la couverture de l'album.
Ça me paraît inconcevable aujourd'hui.
Une jurisprudence Goscinny.
Et pourtant.
Et pourtant, bien sûr. Alors, est-ce que tous les soirs, comme je l'imagine, et comme il serait normal pour la fille de René Goscinny, vous mangez du sanglier?
Bien sûr. Alors, là où vous faites un tout petit peu fausse route, c'est non seulement le soir, mais également au petit déjeuner. Et parfois, quand je suis avec des amis qui apprécient, également au déjeuner, ce qui m'en fait une moyenne de 3 par jour, 21 par semaine.
C'est justement la bonne moyenne selon Olivier Pouls, qui opine du chef en régie.
Et je me porte bien. Bon, évidemment, je mange assez peu de desserts. Pour garder un semblant de ligne et rentrer dans mon maillot de bain à braies bleues et blanches l'été prochain.
Anne Goscinny reste avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe sauvage continue et justement, parler de sangliers, ça me donne faim. Alors, ficelons Assurance Tourix et appelez-moi Olivier Pouls. Votre recette de dernière minute arrive juste après Claude Nougaro. 4 boules de cuir sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et c'est un moment absolument magique qui se profile pour notre invité Anne Goscinny qui, petite, demandait toujours à son père « Mais il existe en vrai, Obélix ?» René ne vous l'avait jamais dit, mais oui, il existe. Et il est belge. Son régime quotidien, 4 sangliers à la broche et puis…
De temps en temps, un sanglier.
Oui, aussi en plus, pour le dessert. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Anne Goscinny. Alors, tout de suite, deux précisions importantes. Je l'avais déjà dit à ce micro d'ailleurs.
Vous êtes belge.
Bon, ça on le sait. Mais les Gaulois ne mangeaient pas tant de sangliers que ça.
C'est vrai.
En réalité, hein, puisque c'était une viande de chasse et qu'eux avaient domestiqué déjà les animaux. Ils mangeaient plutôt de la volaille ou ce qu'ils élevaient.
En revanche, ce que je peux vous annoncer aussi, mon cher Poul, c'est que les Gaulois ne mangeaient pas non plus de tempura. Non. Et c'est pourtant la recette que vous avez choisie pour Anne Goscinny aujourd'hui.
Mais parce que
pile dans le mille.
Nous partageons, je crois, une même passion pour la cuisine japonaise.
Absolument. Je suis folle de cuisine japonaise.
D'accord.
C'est ce que
mieux.
Je préfère.
Eh oui, moi je me renseigne sur mes invités, mon cher Mathieu.
Et pas.
Non, mais entre la comtesse de Ségur et la cuisine japonaise, je suis complètement chez moi. Là.
Ah mais non, je dis bravo à mes chroniqueurs parce que moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils me font avec la comtesse de Ségur, le tempura.
Et qui c'est Anne Goscinny d'ailleurs.
Qui est Anne Goscinny et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Astérix, ce petit guerrier gaulois. Oui, je débarque.
Donc la cuisine japonaise, l'un des emblèmes de la cuisine japonaise sont évidemment ces tempura, ces petites fritures. Ce ne sont pas les Japonais qui ont inventé la tempura. Là, je vais aussi vous faire un petit cours d'histoire gratuit. Hein,
j'aime
tous les,
quand
tous
vous
les
jouez
jours.
Alain Decaux.
C'est une recette à l'origine qui est portugaise. Et les Portugais au XVIe siècle sont allés au Japon. Ils ont colonisé une petite partie du Japon. Et ce sont eux qui ont apporté aux Japonais l'idée de ces fritures qu'ils mangeaient en général les jours maigres, les jours où ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. Donc ils avaient créé cette petite recette qui a inspiré ensuite les Japonais. Et les Japonais l'ont allégée. Parce que ce qui est fantastique avec la tempura, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas gras.
Mais comment enfin, ça
comme le sanglier d'ailleurs.
Mais non.
C'est l'une des fritures les moins grasses qui soit.
Parce que une friture ce mec, il est sur l'échelle des fritures plus ou moins grasses.
C'est la friture la moins grasse qui soit parce c'est que justement, l'intérêt de la tempura, c'est de protéger les aliments que vous allez frire.
Ah oui, c'est juste une protection.
De créer en fait. Une petite croûte autour qui, au moment où elle va rentrer dans la friture, va, contrairement à ce qu'on peut penser, non pas se gorger d'huile, mais expulser l'eau qui est contenue à l'intérieur. Et donc, ça crée une barrière qui empêche la tempura d'être gorgée d'huile et ce qui la laisse croquante, d'ailleurs.
Moi, j'ai envie de dire au tempura, au mores.
Voilà.
Là, je sais pas, là, tout d'un coup, là.
On aurait dit un pirate célèbre.
Et donc, pour cette recette extrêmement facile, il faut simplement 3 ingrédients et une règle de base. Le premier ingrédient qu'il vous faut, c'est un œuf. Il vous faut ensuite un mélange. Alors, soit vous avez de la farine classique et vous allez rajouter un petit peu de maïzena, à peu près une centaine de grammes. Soit vous achetez de la farine de riz, ce qu'utilisent les Japonais, ce qui est encore mieux, bien sûr. Et ça se trouve dans les épiceries japonaises. Et puis, il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau très froide. Ça, c'est le secret de la tempura.
Ça s'appelle un glaçon.
Non, il faut que l'eau soit très froide. Pourquoi ? Parce que, justement, il faut créer un choc thermique entre la pâte à tempura et l'huile de friture qui est à 180 degrés. Donc vous faites votre petit mélange, et ensuite on peut utiliser plein de choses pour faire de la tempura. Des petits bâtonnets de légumes, mais aussi des crevettes par exemple, des anneaux de calamar, des petits morceaux de poisson.
Oh oui.
Tout simplement, vous les passez dans la farine, vous plongez dans votre mélange à tempura, donc le mélange de l'eau froide, de l'œuf et de la farine, et ensuite, tac, dans une friture à 180 degrés, il se passe justement ce choc thermique, vous avez la croûte qui se forme autour, la tempura doit être légère et croustillante, et ensuite, dès qu'elle remonte, en fait, elle est cuite, ça dure quelques secondes. Et dernière petite astuce, utilisez de l'eau gazeuse, ça rend votre tempura encore plus légère.
On remercie Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 touche à sa fin. Qui pourra bientôt déclarer
« J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu »
sous l'œil jaloux mais soumis de ses collègues. À tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
À l'heure de rendre l'antenne, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs et auditrices, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque après-midi. L'équipe est sauvage, c'est nos invités qui en parlent le mieux à l'issue de ces 2 heures.
Mais en même temps, voilà. Et puis, oh non, mais on t'avait arrivé. Si ça a été arrivé.
Oui, hier, Alexandra Sublet était tellement émue qu'elle n'arrivait plus à faire de phrases. Peut-être qu'on aura plus de chance aujourd'hui avec Anne Goscinny. Vous avez passé un bon moment, Anne.
Mais j'ai passé un délicieux moment entouré de tous vos chroniqueurs, de la comtesse de Ségur, de Zulon de Tel Aviv, de cette femme si sympathique et homophobe. xénophobe et raciste. Voilà, on a parlé restaurant japonais et puis non, c'était vraiment très très
tout
chouette.
Tout était réuni pour une bonne
très,
après-midi.
Très, je vais aller maintenant déguster un bon sanglier.
Comme on l'imagine. C'est l'heure de passer une dernière fois les troupes en revue, le moment du quitte ou double. Jean-Philippe Ballas, vous pensez à quoi ?
Quand je serai calife, oui. La place.
Oui. Oui. Eh bien, on va voir. Déjà, dites-nous pourquoi Anne Goscinny devrait voter pour vous ce soir.
Parce que je m'en fiche de perdre avec n'importe quel invité, mais ça me ferait plaisir de gagner avec Anne Goscinny.
Oh, ah oui, c'est vraiment. Mais... Bon, mais vous, oh, c'est vrai. Vous auriez dû être acteur dans un film.
Je n'y peux rien, c'est vrai.
Acteur hollywoodien. Vous êtes incroyable. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous ?
Parce que sinon, je reprends mes chroniques économiques.
Oh non, mon Dieu. Votez pour lui. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour votre facho du tennis ?
Je comprends qu'elle s'en fiche de la chronique juste pour l'adulation que je vénère Astérix, juste pour ça.
Oui, non, mais moi aussi, à ce moment-là, aussi, je peux avoir les points. Nicolas Caron, pourquoi voter pour vous ?
C'est drôle parce que Jean-Philippe m'a piqué mon argument. Mais moi, je vais plus loin, je serais prêt à rendre tous mes points si je gagnais avec Anne Goscinny. Oh.
Comment ça ?
Et j'en ai des points.
Oh. Vous voulez que je vous dise à nos auditeurs combien vous en avez des points ?
Quelques-uns quand même.
Je suis quatrième ou cinquième.
Vous voyez, vous êtes 1, 2, 3, 4, vous êtes cinquième. 62 points.
Ah, bah,
vous
si
rendez
62
points.
Points.
Ah, bah, vous repartez tout pour
bien. Non,
bon, ne vous disputez pas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah bah alors, écrasante majorité pour Jérôme Lacroix. 2 points.
2 points pour Jérôme Lacroix. Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui. C'est très très difficile aujourd'hui. Toutes les chroniques étaient sympathiques et intéressantes. Est-ce que je vais donner mon point à celui qui a le mieux coiffé d'entre nous ?
Mais en fin de journée, comme ça, vous savez, on n'a plus de tenue. Hein.
Là, on parle d'Astérix, pas de Tintin. Vous aviez une houppette qui était très impressionnante, un bel hommage à Tintin. Non ! Aujourd'hui, je donne mes points. Si ! À Emmanuel Dutheil !
Ces ascenseurs émotionnels. Vous ne voulez pas que je m'en fasse des chroniques économiques.
Oui, c'est vraiment pour
il
ça.
Plante, il plante son regard dans mes yeux quand il dit ça. Je donne mes points.
C'est
ensuite, il se tourne vers Emmanuel.
C'est un petit peu sadique, en fait.
Mais c'est vrai que je suis complètement sadique, je m'en rends compte dans cette émission. Mais ici, vous le savez, c'est l'invité qui a le dernier mot, c'est l'invité qui tranche. Anne Goscinny, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour ?
Alors, ça a été horrible pour moi de choisir parce que tout m'a intéressé. Mais je dois dire que le violon rescapé m'a bouleversée. Alors Jean-Philippe, voilà.
Bravo.
Alors là, je ne
Bravo.
Sais comment décrire la moue de Jean-Philippe. Une sorte de... Oui, c'est moi le meilleur, mais c'est pas à moi de le dire. Jean-Philippe Ballas remporte la 105e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaleureusement notre invitée Anne Goscinny, avec qui on fêtait l'année de la BD en France, les 60 ans d'Astérix, et évidemment la sortie du tome 4 du Monde de Lucrèce, qui est disponible chez Gallimard Jeunesse avant le 5e tome, bientôt au printemps.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous, Anne Goscinny. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roch, Jérôme Lacroix, Emmanuel Dutheil, Nicolas Caro, Jean-Philippe Ballas et l'obélix belge Olivier Pouls. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.